Bonjour, c'est Symbiose. On a un petit peu de retard. Aujourd'hui, on va parler du jeu. Mais avant de présenter les invités, je vais faire quelques petites annonces. Alors d'abord, au niveau de la musique, aujourd'hui, j'ai passé de la musique libre, bien sûr, mais de la musique qui, d'un groupe de Marseille qui s'appelle Sac à Boulons. Donc je vais vous passer trois morceaux. Vous pouvez retrouver cette musique sur Dogmazic, dont on a déjà parlé dans l'émission. Voilà. Je voulais également vous parler de du concours, un concours de nouvelles sur In Libro Veritas. On avait accueilli In Libro Veritas pour la deuxième émission. Donc c'est le site sur lequel on peut site avec de littérature équitable où on a des écrits sous licence libre. Donc il lance un concours de nouvelles. Voilà. Et sinon, je voulais également faire une annonce qui ne concerne pas directement le livre, mais qui concerne le jeu en tout cas, qui est le thème de l'émission. Dans un mois, le premier week-end de novembre, il y a une convention de jeu qui s'appelle Objectif Jeu, organisée par des copains à moi, à laquelle je participe un petit peu. Et donc, il sera une convention sur 4 jours et 3 nuits. Non pas une convention où on va trouver plein de boutiques pour dépenser ses sous, mais une convention où on va pouvoir jouer effectivement à toutes sortes de jeux. Que ce soit des jeux de des jeux classiques conventionnels, mais aussi des jeux de rôle, jeux de société, jeux de simulation, ce genre de choses. Voilà. Eh bien, je vais vous mettre un premier morceau de Sac à Boulons, et ensuite on va pouvoir débuter l'émission.
À tous nos patrons, ma voiture et mes prêts, j'ai dû les négocier. Mes parents, sa famille, je les ai supportés. Mes soi-disant amis, mes voisins de palier, tous les tracas d'une vie honnête et bien rangée. Mais qu'aurais-je dû faire alors devant tant de détresse? Tout accepter d'accord, mais leur montrer mes fesses. Mon poste salarié, j'ai dû le négocier, mes envies, ses désirs, je les ai réprimés. Mes pires ennemis, le facho du premier, mon cri d'indépendance que j'ai dû étouffer. Mais qu'aurais-je dû faire alors, devant tant de bassesse, vendre mon âme au diable et prier à la messe. Négocier, négocier, tout négocier, les virages, les routes, les chemins défoncés. Négocier, négocier, il faut donc se plier et devenir sans doute un homme déprimé. Les contrats commerciaux qui fallu négocier, les dures lois du marché que j'ai dû maîtriser, ainsi que l'avenant signé, la commande engagée, tous ces gentils clients qui ne m'ont pas payé. Mais qu'aurais-je dû vendre alors pour enflouer les caisses, mon honneur ou ma mère? Mais sûrement pas mes fesses. Négocier, négocier, faut tout négocier. Les virages, les routes, les chemins défoncés. Négocier, négocier, il faut donc se plier et devenir sans doute un homme déprimé. Oh, négocier, négocier, je ne veux plus négocier. Je veux vivre ma vie tel que je l'ai rêvé. Négocier, négocier, jamais plus ne plierai devant toutes ces bêtises. Et demain on n'ira plus travailler.
Bon voilà, de retour. Donc Symbiose, aujourd'hui on parle du jeu. Et donc quatre invités dans le studio. Nous sommes nombreux. Ça va sentir un peu le Fennec à la fin de l'émission. Je vais commencer par donc Olivier Lejade de Make en Sleep.
Make
and Sleep. Ouais.
Faut pas cruelty aussi. Sinon,
sinon c'est trop facile. Donc Xavier Antoviak de Rhizome.org. On a également David Lapetina, donc qui va nous parler d'échecs, enfin du libre dans les échecs et de la propriété intellectuelle. Et pour finir, donc Étienne Armand Amato, donc qui est chercheur en sciences de l'information et de la communication, qui s'intéresse donc au MMORPG et au jeu en général. Pour commencer, Olivier, est-ce que tu peux nous présenter Make and Sleep?
Make and Sleep, c'est un jeune studio indépendant qui cherche à faire des jeux de façon éthique depuis maintenant 5 ans, presque 5 ans. Alors, en fait, c'est un studio que j'ai créé suite à mon départ de Nevrax, qui était ma société précédente, où on avait travaillé sur le MMORPG Rhizome. Et que j'avais quitté avec perte et fracas suite à un désaccord assez lourd avec mon conseil d'administration. Et donc j'avais fondé Make and Sleep sans capital risque, en me disant cette fois on va faire les choses comme on a envie de les faire et sans pression externe sans pression d'investisseur. Et donc, on a recommencé à travailler sur des univers persistants, sachant que comme on est une toute petite équipe et qu'on était auto-financé, on n'avait pas les moyens de se lancer tout de suite dans un gros projet. Et on a commencé par faire un club de poker en ligne, aussi trivial que ça puisse paraître. Mais l'intérêt, c'est d'abord qu'on sentait bien qu'il allait avoir une vague du poker, donc c'était porteur. Et puis, surtout, d'un point de vue technologique, ça ressemblait très fortement aux contraintes d'un univers persistant plus large. Donc on a fait ça. Et puis, à côté de ça, ça c'est un projet qui est terminé aujourd'hui, mais dû à des problèmes de législation un peu particulière sur le poker et les jeux d'argent, on l'a mis en stand-by. Et aujourd'hui, on travaille sur des nouveaux projets, dont un qui va sortir l'année prochaine, qui n'est pas encore annoncé, qui est un jeu DS, sur console Nintendo DS. Voilà.
D'accord, très bien. Donc tu as parlé de Rhizome.org, donc ça va même directement à Xavier. Donc on a un mot commun, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais, enfin qu'est-ce que Rhizome.org et qu'est-ce que tu fais là-dedans?
Alors Rhizome.org, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est une initiative qui a été lancée en novembre dernier suite à la faillite de Nevrax. Visiblement il ne pouvait pas se passer d'Olivier. Donc le jeu était déjà bien avancé, ça faisait déjà plus de 2 ans qu'il était sorti, mais il n'y a pas eu le succès qui était escompté par les investisseurs originels, donc c'est quelque chose qui a vivoté puis qui a fini par se crasher. Donc l'objectif était d'essayer de racheter le code, les données, le jeu en lui-même, pour le passer sous une licence libre. C'est-à-dire qu'originellement, Rhizome était censé être libre, au moins dans la partie logicielle. Mais suite au départ d'Olivier, cette partie-là était un petit peu abandonnée. Donc, l'idée était de continuer à faire vivre le jeu, mais à travers la communauté. Donc, la manière de racheter Rhizome qui était prévue, c'était de lancer un appel aux dons. Donc, pour que les gens, que ce soit de la communauté du libre, du MMO, etc., puisse apporter une petite participation qui, additionnée par des milliers de donateurs, donnait une assez grosse somme. Au final, entre les dons individuels et privés, ça a donné pas loin de 300 000 euros. Donc, de manière à avoir un premier MMORPG libre, vraiment libre. Donc, on s'est fait un petit peu passer devant par une société qui en a entendu parler à cause du buzz qu'on faisait, et qui vient de se replanter d'ailleurs au passage. Donc il n'est pas impossible qu'on entende parler de Rhizome.org bientôt. Donc voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais là-dedans ? J'ai travaillé en fait pendant 3 ans pour Nevrax, un peu après le départ d'Olivier. Et plus personnellement, je m'occupe professionnellement depuis 7-8 ans de communautés en ligne, donc que ce soit dans le jeu vidéo ou dans des choses autres, comme par exemple chez 9CGTL dernièrement, ou des choses comme ça.
Ouais. D'accord. Donc David.
Oui, donc l'objectif en fait est de parler de tout ce qui se fait dans le monde des échecs, notamment son lien fort avec l'histoire de l'informatique. Il faut savoir justement que les échecs, le premier programme de jeu qui a été fait, on peut dire c'était un programme d'échecs fait par Turing dans les années 50. Et assez curieusement, on s'aperçoit en fait que l'histoire des jeux d'échecs suit assez fortement aussi les logiciels libres, parce qu'on se souvient que GNU Chess a été créé en 84, donc qui est la date quasiment de création de la FSF par Richard Stallman. Et aussi un autre sujet en fait qui commence à apparaître, qui est aussi la notion de copyright sur les parties. Assez curieusement, on s'aperçoit que les gens vont avoir tendance de plus en plus à dire, ben voilà, telle partie entre telle et telle personne m'appartient et les droits de diffusion seront donc limités.
D'accord, parce qu'en fait, quand on joue aux échecs sérieusement, on étudie des parties déjà faites. Et
voilà, tout à fait. En fait, il y a une longue tradition qui consiste à dire que pour progresser, il faut étudier les parties des grands maîtres, évidemment. Cette notion de copyright est quand même assez ancienne, dans la mesure où les grands maîtres, traditionnellement, ont toujours eu une velléité à publier en premier les parties qu'ils avaient jouées. Mais on va dire que cette notion de copyright traditionnelle était plus un droit, non pas sur la partie, mais sur la publication de la partie. Dire, ben voilà, je veux publier en premier la partie, je l'ai gagnée, j'ai gagné ce tournoi, où les joueurs s'arrangeaient avant pour dire, c'est moi qui aurai le droit de publication donc des parties, parce que je veux éditer un livre. Mais une fois que ce livre est édité, il est évident que n'importe qui, traditionnellement, a le droit non seulement de reproduire la partie, mais aussi de la recopier dans un autre ouvrage pour illustrer, pourquoi pas, d'autres variantes, d'autres analyses. Et donc, récemment, on s'aperçoit que la FID, donc qui est la Fédération Internationale d'Échecs, c'est l'organisme qui régule les échecs au niveau mondial, a voulu déposer des copyrights sur les parties jouées au dernier championnat du monde qui ont eu lieu la semaine, qui sont terminées la semaine dernière. On n'en a pas beaucoup parlé aux infos, c'est à noter. Donc ils ont abandonné finalement cette idée au dernier moment, parce que ça commence à faire du bruit. On imagine bien que les joueurs d'échecs, si un organisme qui s'occupe d'organiser des tournois commence à poser des copyrights, si les grands maîtres qui jouent ces parties sont ensuite obligés soit de payer des royalties sur leurs propres parties, on imagine bien qu'ils ne vont pas rester dans une telle organisation. Donc ça fait partie des risques. Et assez curieusement, on s'aperçoit qu'il y a un autre type de risque qui apparaît par les fournisseurs de matériel. De plus en plus, les tournois en fait sont suivis en ligne sur Internet. Et il y a une société, qu'on ne nommera pas évidemment, qui fournit des logiciels qui permettent ainsi aux arbitres de saisir les coups en temps réel et de faire du broadcast sur Internet pour que le public puisse suivre. Et cette société a commencé à dire que toute partie qui passait par son matériel lui appartenait. Donc évidemment, ça a fait grand bruit. Et il est assez curieux de voir justement que les joueurs d'échecs ne sont pas non plus toujours sensibilisés à cette problématique de copyright. Et autant on se dit, vous pouvez interviewer, je dirais, n'importe quel joueur d'échecs, il vous dira c'est du domaine public. Il est totalement anormal, en fait, de déposer une quelconque propriété intellectuelle sur une partie. Qu'un joueur se réserve le droit, évidemment, de publier et de commenter cette partie dans un magazine, c'est normal, dans un livre en premier. Qu'il essaie de garder cette exclusivité, de prime abord, est normal. Par contre, mettre un droit fort, type propriété intellectuelle, vous devez des royalties à chaque fois que vous éditez cette partie, c'est totalement anormal.
D'accord. Donc Étienne.
Oui, donc bonjour. Donc moi je suis encore en thèse, que je termine, sur le jeu vidéo, et j'appartiens à une petite structure associative qui s'appelle l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, omnsh.org, qui a rassemblé des personnes passionnées par les pratiques numériques et notamment par le jeu vidéo, issues de différentes disciplines, psychologie, sociologie, sciences politiques et sciences de la communication, qui étaient un peu isolées dans leur domaine à l'université française, qui commencent maintenant à se réveiller sur les jeux vidéo. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le débat d'aujourd'hui, c'est que les pratiques libres, open source, qu'il va falloir quand même un petit peu décrire, mettent en évidence aussi les logiques de marché, les logiques industrielles et commerciales qui prédominent dans le monde du jeu vidéo. Par contraste, il me semble que ce sont des bons analyseurs que toutes ces tentatives pour créer des jeux vidéo collectifs et avec des diffusions gratuites et un peu moins verrouillées aux règles du marché très contraignantes. Voilà.
D'accord. Bah, je pense que pour aborder le sujet un petit peu plus, on pourrait aborder la question de l'enjeu du jeu. Enfin, c'est un peu difficile à dire, mais aujourd'hui, en termes financiers, c'est énorme. On sait que le jeu vidéo, comme on dit, représente des budgets et chiffres d'affaires supérieurs au cinéma. On sait aussi que pour l'informatique, c'est un moteur. Enfin, c'est quelque chose qui, c'est David qui le disait, qui peut freiner le passage, par exemple, à un système libre parce qu'on a ces jeux qui tournent sur une vieille machine. On se souvient de l'époque du Minitel où le jeu était un des moteurs, bah avec les trucs de cul bien sûr, mais était un des moteurs pour aller sur le Minitel et qui l'a fait marcher. C'était un peu pareil avec les PC ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui le jeu c'est quand même quelque chose qui a du poids. Donc là-dedans, enfin dans ce cadre-là, qu'est-ce que le libre, enfin quelle est la logique, enfin quel est l'intérêt d'avoir une démarche centrée sur le libre là-dedans?
Déjà, un premier élément, c'est d'arriver à faire exister le jeu libre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en jeu libre, mais si on compare ça à l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, et qu'on prend pour un point de comparaison ce qui peut se passer dans les éditeurs de texte ou les choses comme ça, le jeu vidéo est très à la traîne dans ce domaine-là. Il y a des explications, il y a plusieurs pistes pour expliquer ça. Notamment le fait que des jeux, c'est une très grosse production pendant un temps très court qui va donner un résultat souvent en limite de technologie pour les grosses productions. Qu'il y a une partie graphique, créatrice, avec toutes les problématiques que vont avoir les auteurs, artistes traditionnels par rapport au fait de laisser l'accès libre et la diffusion et surtout la modification libre de leurs œuvres. Ces deux éléments combinés font que il y a des jeux libres, mais qu'il y a un sacré fossé entre ce qui est capable de produire l'industrie du jeu vidéo telle qu'on peut la voir dans les blockbusters et ce que va être capable de produire des équipes libres souvent sans financement dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à montrer ne serait-ce que c'est possible. C'était une des choses pour Rhizome qui était important, outre le fait de continuer à faire exister cet univers-là, c'était de montrer qu'un jeu libre et pas dans le genre le plus simple, c'est le MMO, c'est un peu la fusée du domaine, de montrer que des équipes bénévoles avec une partie de gens qui sont payés peuvent arriver à rentrer en concurrence au moins sur l'aspect de qualité et de finition d'un blockbuster du domaine.
D'accord. Oui, Olivier.
Si je peux rebondir là-dessus, avec toute la sympathie que j'ai pour Rhizome.org, puisque j'en fais partie, je ne suis pas sûr que récupérer et relancer Rhizome complètement libre aurait fait cette démonstration. Je pense que il y a effectivement le problème d'arriver à faire tourner un jeu en qui soit libre, et ça c'est une problématique intéressante, et c'était pour ça que c'est en ça que Rhizome.org est intéressante. Mais il y a aussi la problématique de créer un jeu et d'arriver à le faire dans un contexte économique qui n'est pas favorable du tout à l'émergence de produits libres. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si on veut pouvoir créer un jeu qualitativement au niveau de ce qui est fait actuellement dans l'industrie, il faut pouvoir financer aujourd'hui des artistes qui soient au niveau, par exemple, des artistes, des programmeurs, des personnes qui soient au niveau de ce que le reste de l'industrie fait. Et ça, c'est une vraie problématique. Comment est-ce qu'on arrive à financer ces jeux et pour autant que le résultat de cette production soit libre. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je sais y répondre partiellement. C'est-à-dire que je sais faire des jeux dont le logiciel est libre. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé de réponse pour produire des jeux dont les data seraient libres. Rhizome, c'est une exception, puisque Rhizome, une fois de plus, on est dans un cas où il y a dépôt de bilan. Donc, le jeu, l'entreprise a fait faillite. Et on peut bénéficier, entre guillemets, de cette faillite pour relancer le jeu sur un modèle libre et donc donner les data au monde. Mais créer un jeu de zéro et être capable d'être en compétition et en concurrence avec le modèle classique de l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui, je ne sais pas le faire.
Il y a effectivement deux étapes. Je pense le fait de faire exister, d'avoir un monde comme ça qui existe, un jeu comme ça qui existe, c'est déjà une première preuve de concept. C'est quoi ? Au moins, on arrive à le faire tourner. Ensuite, c'est vrai, il y a un vrai problème qui est celui du financement. Mais je pense que si dans l'esprit des gens, un jeu libre de cette qualité-là peut être on montre qu'il peut être tourné, on peut le faire tourner avec une équipe libre, une équipe de gens qui se reposent sur une approche libre. On enlève déjà un gros problème qui est le fait de concevoir que ça puisse exister. Après, sur le financement lui-même, des modèles de financement tels que celui qu'on a vu sur Rhizome.org, on peut tout à fait envisager de les appliquer, de les étendre sur la conception d'un jeu de zéro.
Sauf que les coûts ne sont pas les mêmes.
Les coûts sont pas les mêmes, mais en un mois, si on peut arriver à réunir 300 000 euros, je pense qu'en quelques années, on peut peut-être arriver à faire des choses comme ça.
Dans ce qui existe actuellement en libre, je pense qu'il faut qu'on parle du moteur de Quake, c'est ça ? Ouais. Je crois que donc justement, il y a eu cette séparation entre le moteur, enfin la technique, le code. Et les contenus non plus artistiques, etc.
Oui, mais il y a quelques exemples de jeux libres ou qui ont été libérés. On peut parler aussi de ce qui est fait par les gens de Nebula Device aussi, qui ont fait des jeux qui sont dont le moteur est libre également. Il y a effectivement tout ce que fait Carmack, qui John Carmack de id Software, donc Quake, Doom, tous ces jeux-là, qui avec quelques générations de retard. Le code source est libéré également. Pour autant, je n'ai pas connaissance de jeux qui ont été conçus comme étant libres, de jeux, hein, je parle bien de jeux et pas de logiciels, qui ont été conçus comme étant libres depuis le départ et qui ont été réalisés commercialement et qui soient à un niveau commercialement compétitif avec, compétitif avec ce qui est fait dans le monde commercial, industriel, d'accord, classique.
Mais très naïvement, à quoi ça sert d'avoir un jeu libre, de A à Z, Quake, quand le moteur a été libéré, derrière il y avait un éditeur, on pourrait se dire que l'éditeur avait tout intérêt à pousser ses clients potentiels à acheter un nouveau produit plus à jour, etc. Qu'est-ce qui peut pousser une boîte qui doit vendre à libérer quelque chose et donc à favoriser d'autres projets, ce genre de choses?
Je peux répondre, du moins essayer. Je pense que là-dessus, il y a un intérêt évident, c'est que il y a toujours des attentes, et c'est un peu valable sur tous les logiciels, il y a toujours des attentes qui ne sont pas satisfaits par un éditeur centralisé, monolithique, etc. Et ça, c'est quand même une des réponses fortes qu'apporte le libre. C'est quand même de permettre quand on a les compétences et quelque chose à implémenter ou qu'on est capable d'aller chercher les compétences, d'enrichir soi-même un jeu ou un univers. Je reprends l'exemple du MMORPG. On a systématiquement, et même sur les énormes productions, les Blizzard, etc., une communauté qui a un niveau d'attente sur ce qui doit être produit par l'éditeur, qui est supérieur à ce qui peut être fourni. Et dans le cadre où... Mais ça, c'est principalement dû au fait qu'on a un mur entre d'un côté un éditeur et de l'autre côté la communauté. Quand on essaie de transformer ce mur en une espèce de pente, c'est-à-dire qu'en fonction de ses compétences, on peut arriver à gravir un petit peu et faire des choses, on se met à avoir quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide, où même si effectivement tout ne devient pas parfait du jour au lendemain, on est dans un cadre où on peut avoir une utilisation du jeu qui est plus proche de ce qu'on souhaite, une richesse plus grande Et surtout, quand il s'agit de faire vivre un monde, on ne verra jamais un gouvernement qui arrivera à faire vivre un pays tout seul par sa seule force de travail. Un monde, un univers doit être libre parce que chacun doit être capable de faire son petit trou dedans.
D'accord. Donc on a quelques exemples comme ça d'appropriation d'univers de jeu, donc ce qu'on appelle les modes, donc ce genre de trucs. Etienne, tu peux nous en parler ?
Oui, dès lors que les éditeurs de jeux vidéo ont mis à disposition des éditeurs de cartes, de niveaux et de manière plus approfondie un accès au moteur 3D, donc de calcul de rendu qui permettent non seulement de réhabiller l'environnement mais aussi de designer des interactions qui soient un petit peu originales, le mouvement des mods est apparu, qu'il faut mettre bon plutôt du côté d'utilisateurs avancés en mesure d'utiliser bon des interfaces graphiques qui sont quand même compliquées mais qui demandent pas non plus un niveau informatique très élevé. Il faut le mettre en parallèle avec l'autre phénomène qui s'est vu énormément avec les Sims, mais bien d'autres, qui est l'alimentation par les utilisateurs en objets, habillages, textures et autres qui vont être échangés au sein de la communauté pour appartenir finalement à l'univers de jeu. En plus de ça, on a un autre phénomène d'appropriation qui est plus, lui, de l'ordre de la diffusion justement de ses exploits sous la forme de vidéos qui est assez connu maintenant, qui s'appelle les machinima, qui consiste à faire un clip vidéo à partir d'un jeu. Et du coup, cette combinaison en fait entre trois formes d'appropriation, on peut dire les modifications qui travaillent sur une forme de production mais pas d'un jeu original, mais à partir d'un jeu existant on produit quelque chose de nouveau, une nouvelle carte, un nouvel univers. Tout ce qui est de l'ordre plutôt de la modification, donc un peu du copier-coller à la façon du remix musical, où on va prendre un détail, un objet, et puis le réinjecter dans l'univers. Et après, des formes de valorisation médiatique sous la forme de vidéos. On peut dire que tout ça crée un environnement assez propice à ce qu'une passion ludique, quand même contemporaine, extrêmement prenante, dont se revendiquent beaucoup de joueurs de jeux vidéo, puisse s'exprimer sous différents angles. Alors juste pour reprendre le questionnement d'Olivier, c'est vrai qu'il y a trois cas de figure en général dans la prise en main de jeux en libre. D'après ce que j'ai pu voir, c'est soit des jeux dont l'éditeur a fait faillite, qui vont être donc repris par une communauté, soit disons une reprise de jeux en vue d'une amélioration un peu original, donc ça se rapproche des modes. Une création de clones aussi. Alors moi j'avais repéré que par exemple Civilization a fait l'objet d'une version libre qui s'appelle Free Civ, que StarCraft a fait aussi une adaptation de clone qui s'appelle The Craft. Donc là on a
ça c'est une constante, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a énormément de clones, il y a des clones de Worms, des clones de énormément de choses,
mais de clones s'affirmant comme libre.
Oui.
Donc qui vise à on va dire corriger, ou par exemple en civilisation a des choix idéologiques sur quelle civilisation est la plus puissante, donc effectivement la communauté qui va s'occuper de FreeCiv va débattre de savoir quel est le modèle qui
il y a d'autres choix qui vont être faits, mais je crois que t'as raison, il y a effectivement une tendance lourde du libre à cloner en libre des logiciels propriétaires, que ce soit des jeux vidéo ou des logiciels normaux. Mmh. Et donc il y a pas de raison que les jeux vidéo échappent à ça. Sur le long terme, la barrière à l'entrée très forte pour les jeux vidéo, c'est la masse de contenu data, données graphiques, par exemple, qui doivent être créés pour un jeu moderne. Donc c'est pour ça qu'on voit des vieux jeux clonés assez facilement, des jeux en 2D où ça coûte pas très cher parce que c'est des tiles. Les tiles, c'est des espèces de motifs qui se répètent, donc ça coûte pas très cher de cloner ça. Par contre, pour des jeux modernes où il y a des graphismes en 3D et beaucoup de graphismes en 3D, les clones, c'est plus difficile.
Ce que je trouve quand même intéressant, enfin, par rapport à cette relation jeu libre-jeu propriétaire, c'est que, de ce qu'on vient de dire, le jeu propriétaire a l'air quand même relativement ouvert, enfin, je dis relativement, hein, mais que ce soit les modes ou ce genre de choses, où on voit bien cette cassure qu'il y a entre technique et contenu, où finalement on ouvre la possibilité de créer de nouveaux contenus. Et quand on pense, par exemple, à l'exemple de David, là, sur les échecs, où là, on est sur des jeux traditionnels, où il y a cette volonté de tout verrouiller, de mettre des copyrights partout et de dire bon bah tout ce qui sort, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres domaines, en musique, etc. Et là finalement j'ai le sentiment qu'en que dans le jeu, c'est quand même du monde, enfin dans le monde propriétaire en tout cas, c'est moins présent que...
Non, il faut vraiment pas croire ça. Ouais. Je pense que l'industrie du jeu vidéo, c'est probablement une industrie parmi les plus propriétaires qui soit. C'est une industrie qui est extrêmement rétive à la philosophie du libre. Par contre, je crois qu'elle illustre bien la différence entre libre et ouvert. C'est pas parce qu'on est ouvert qu'on est libre. Et typiquement, les jeux, parce qu'ils sont interactifs, parce qu'on veut en faire des jeux communautaires, ils ont tendance à effectivement s'ouvrir de plus en plus, laisser les joueurs faire de plus en plus de choses à l'intérieur des univers, mais c'est pas pour autant qu'ils sont libres. Il y a vraiment une différence. Mmh. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les joueurs d'échecs, moi j'étais extrêmement étonné d'apprendre ça, j'étais absolument pas au courant. Et je voulais juste savoir si ça avait été validé par un juge. Est-ce que ça a été jugé, ces histoires de copyright de partie?
Non, pas encore, disons que c'est en débat. Mais sur cette opposition quand même libre et propriétaire, enfin moi ce qui me surprend le plus dans le monde des jeux vidéo quand même traditionnels, c'est le manque d'interopérabilité. Ça, c'est quelque chose que nous, dans le monde des échecs, on n'a pas. Je peux prendre un logiciel de jeu d'échecs propriétaire, je peux exporter les parties, les importer sous Linux sur mes logiciels libres, ça va fonctionner. Pourquoi ? Parce que très tôt, on a essayé de normaliser les formats d'échange. Mmh. Et assez curieusement, et à mon avis, il y a beaucoup de déperditions dans le monde du jeu vidéo libre, c'est que on s'axe toujours la réflexion sur il faut des beaux graphiques, j'entends des beaux graphismes, j'entendais tout à l'heure, il faut pouvoir concurrencer le monde commercial. Est-ce que l'objectif est réellement là? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, on dit, ah bah oui, mais on clone des jeux propriétaires, mais est-ce que le rôle du monde du libre n'est pas justement d'offrir d'autres alternatives? Et est-ce que finalement, on n'a pas des joueurs qui seraient prêts à accepter des graphismes moins beaux, mais des idées plus pertinentes? Et surtout des logiciels qui savent communiquer entre eux. Je vais prendre un exemple simple. On imagine que j'ai deux FPS libres, donc deux jeux à la Doom ou Quake-like, comme on dit pour ceux qui n'ont pas connu Wolfenstein. Est-ce que je peux exporter facilement les terrains d'un jeu à l'autre dans le monde du libre? Je n'en suis pas sûr. Ça veut donc dire qu'on se retrouve avec deux projets qui finalement sont en concurrence. Donc on dit libre, c'est une communauté, on va tous participer, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, si on prend deux logiciels de MMORPG, est-ce qu'ils peuvent s'échanger les terrains facilement?
Alors, moi je voudrais réagir là, parce que effectivement, je trouve que c'est un vœu pieux, c'est quelque chose de très souhaitable, c'est dans l'idée, je peux qu'y souscrire. Maintenant, il y a plusieurs choses à distinguer. Effectivement, comme tu le relèves très bien, il y a un problème de standardisation, de normalisation, qui n'est pas fait du tout dans l'industrie du jeu vidéo. Il n'y a pas de normes. Le jeu d'échecs, c'est le jeu d'échecs. Les règles sont claires. On sait transférer une partie d'un jeu à un autre parce que c'est le même jeu, quelque part. Quand on passe d'un jeu à un autre jeu, si je pars d'un jeu de course, par exemple, à un FPS, bon, ben déjà, c'est plus le même jeu. Donc déjà, pour faire communiquer au niveau des règles, c'est très difficile. Alors, on pourrait imaginer de remonter à un niveau et de faire communiquer au niveau des data, des données, par exemple. Là, ça paraît plus possible. Par contre, jusqu'à présent, il n'y avait pas de standard de format de données 3D. Ça commence tout juste à apparaître avec des choses comme Colada, par exemple. On est en train d'entrer dans des détails techniques, mais ça commence tout juste à apparaître au niveau des formats de données. Donc ça me donne espoir qu'effectivement, il va commencer à avoir des pools de data 3D beaucoup plus importants que ce qui existait jusqu'à présent. Interopérables, beaucoup plus importants. Par contre, au niveau des règles, là, on est vraiment dans l'expression de la volonté des gens qui ont créé le jeu. Là, ça devient très difficile d'interopérer parce que tel groupe de joueurs ou tel joueur ou tel créateur va vouloir que son jeu se joue de telle manière. Et après, on souscrit à ces règles ou on n'y souscrit pas. Et donc, c'est très difficile d'imaginer, par exemple, de transférer un personnage qu'on a monté dans World of Warcraft, je prends un exemple au hasard, pour l'amener dans un autre univers persistant parce que les règles seront très différentes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire interopérer ces deux univers qui ont des règles internes de fonctionnement très, très différentes?
Je pense que David parlait justement des data.
Moi, la question n'est pas sur l'expression de ces règles, c'est sur leur description, c'est-à-dire comment elles sont décrites. À l'heure actuelle, il est évident qu'on a toujours des règles, on est dans un MMORPG ou dans un jeu de rôle classique, on va dire on a tel type de règles. Que ces règles changent d'un monde à l'autre, c'est tout à fait normal. Par contre, c'est le moteur qui va les interpréter. Est-ce que lui, il est standardisé? Est-ce que le format dans lequel vous écrivez ces règles est, lui, standardisé, surtout réutilisable d'un jeu à l'autre?
Absolument pas.
Et pour moi, le débat est là, et c'est là où, à mon avis, il y a beaucoup de pertes d'énergie, en tout cas.
Mais très certainement, mais ça, je pense que c'est un chantier à 20 ans, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est à des années-lumière de ça.
D'accord. Xavier veut intervenir.
Oui, je pense que cette question est particulièrement pertinente. Effectivement, il y a beaucoup d'énergie qui est un petit peu gâchée à cause de ça. Mais en amont encore de ça, notamment vis-à-vis pour les jeux qui sont en ligne, il y a une question qui rejoint un petit peu celle de la propriété des parties d'échecs, qui est la propriété des données qui sont produites par les joueurs. C'est-à-dire sur la plupart des jeux, des MMO, c'est la quasi-totalité, les propriétaires des données qui sont produites, c'est pas vous, c'est pas ce que vous jouez, ça vous appartient pas, ça appartient à l'éditeur. Donc à partir de ce moment-là, il y a même pas à se poser la question de l'interopérabilité, puisque l'éditeur, lui, va vouloir vous garder, même si c'est interopérable, il va pas vous laisser prendre vos données pour les mettre ailleurs.
Ça dépend de ce que vous propose l'éditeur.
Le fait est qu'aujourd'hui, c'est un problème dont, à part Second Life, il y a guère qu'eux qui donnent la propriété à leurs joueurs. Donc il y a un vrai problème ici qui est même assez profond de désappropriation de du travail. Et on revient à cet affrontement entre ouverture et liberté, qui est que l'ouverture, c'est bien beau, mais si ce qu'on produit, c'est tout dans la gamelle de l'éditeur qui propose cette pseudo-ouverture, au final, on devient juste des petits esclaves qui travaillons pour les grands éditeurs. Je pense que le minimum qu'on peut considérer, c'est que quand une donnée est produite, quand il y a un travail qui est fait, il n'y a peut-être pas rétribution directe, mais la moindre des choses, c'est de considérer que cette donnée appartient à celui qui l'a faite.
Ouais. Et ça, moi, je pense que c'est hautement débattable. Je pense qu'il ne doit pas y avoir une règle générale qui s'applique dans tous les cas. Je pense que c'est au cas par cas. Il y a effectivement des éditeurs qui décident que chez eux, c'est complètement propriétaire, c'est complètement verrouillé. Et puis, vous, utilisateurs, vous avez le choix d'aller ou de ne pas aller dans ce monde. Personne ne vous oblige à aller dans World of Warcraft. Personne ne vous oblige à créer du contenu dans ces mondes-là. Si vous ne souscrivez pas aux règles qui sont édictées par l'éditeur, faut pas y aller, c'est tout simple. Il faut aller ailleurs. Donc je pense que c'est important d'être conscient des règles édictées par un éditeur ou un autre. Pour autant, je ne serais pas d'accord si on disait « Ah, il faut nécessairement que tous les éditeurs autorisent la propriété de ce qui est créé dans le contexte de leur univers persistant, par exemple, par les joueurs. » Parce qu'il y a aussi quelque chose à faire valoir pour l'intégrité d'un jeu, quoi.
Une chose que David disait tout à l'heure là sur le manque d'information de la plupart des joueurs d'échecs qui pour eux c'est naturel que toutes les parties appartiennent à tout le monde, etc. Sur un autre domaine, tout ce qui est sur les DRM, j'ai pu constater que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler et n'ont pas la moindre idée des contraintes qu'il peut y avoir.
Rappelle ce que c'est justement.
Alors les DRM, donc c'est des fichiers, des systèmes informatiques qu'on met sur des contenus, de la musique ou des films, et qui interdit la copie, etc. On a un exemple tout récent là avec la série Heroes que TF1 distribue en vidéo à la demande, qui est en fait de l'allocation de fichiers, parce que donc il faut avoir un système d'exploitation et un lecteur compatible pour pouvoir les lire, et donc on peut le lire à volonté pendant une semaine, je sais plus exactement combien de temps, mais enfin pendant un temps limité, après quoi le fichier s'efface. Donc c'est comme si on allait louer un DVD dans ce truc de quartier, et ça coûte quand même assez cher sur Onirik, j'ai créé un petit truc où j'ai fait le calcul par rapport à ce que rapporte, ce qu'un publicitaire doit débourser par tête pour financer un épisode. C'est 60 fois plus cher que ce que l'utilisateur doit dépenser là-dessus. Et du coup, et en plus ça, on peut l'enregistrer à la télé, mais là on peut plus l'enregistrer. Et voilà, donc il y a d'autres trucs comme ça qui sont où on essaie de coincer les gens, et les gens sont assez peu sensibles, ou en tout cas font pas le calcul. Ou imagine que ce qui va passer à la télé, qu'ils peuvent enregistrer sur leur magnétoscope, par exemple, va valoir ce qu'ils pourraient avoir sur Internet ou ce genre de choses. Par rapport à à cette appropriation, à cette idée de l'appropriation vers la propriété, Étienne, est-ce que c'est des choses qui toi, alors déjà, est-ce que tu penses qu'il y a une sensibilisation du joueur? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avancer? Est-ce que le joueur n'est qu'un consommateur, ou est-ce qu'il y a un statut un peu différent?
D'abord, dans le domaine du libre, j'ai récupéré quelques données qui étaient issues des statistiques de 2005 sur les projets open source référencés sur sourceforge.net, qui mentionnaient que sur 100 000 applications et projets en open source, il y en avait 9 000 qui concernaient des jeux, au sens large. Je me suis inspiré aussi d'un dossier de synthèse qui est disponible sur Futura Science, Vous tapez voilà, jeux vidéo et open source, vous tomberez dessus facilement. Et là-dessus, on trouve des mentions de jeux originaux pour alimenter ta question, Olivier. Il citait notamment BZ Flag, qui est un jeu de joueurs multijoueurs entre des chars en 3D, qui a été téléchargé 250 000 fois à sa sortie en mai 2005, ou un MMORPG libre, Plan Shift, qui, semble-t-il, tourne depuis...
Plan Shift n'est pas libre.
Il n'est pas libre.
Non, mais en plus, juste pour rebondir, je conteste pas qu'il y ait des jeux libres, bien entendu, il y en a.
Non, juste, tu disais des jeux originaux.
Oui, non, mais même originaux. Tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les jeux libres originaux ne sont pas qualitativement, ou même en termes d'audience, au niveau des jeux propriétaires.
C'est clair. Ce qui ressort du dossier, c'est qu'ils ont une génération de retard, en général, et que le point qui pêche le plus, c'est le graphisme, parce qu'en réalité, les logiques de collaboration qui président à la naissance d'un logiciel en open source, eh bien, c'est plutôt du côté des programmeurs qu'il y a cette capacité de travail et de modalité, et que finalement, il y a aussi une sorte de... on va dire de fossé culturel entre les programmeurs et les graphistes, où un programmeur n'a peut-être pas la même sensibilité, jugera que si la programmation est bonne et que le game design est bon, c'est pas très grave si la qualité graphique est en retrait. Mais un des enjeux là pour répondre à ta question plus précisément, Luc, c'est que la gratuité, qui est encore autre chose, parce qu'il y a l'ouverture, la gratuité qui est pas nécessairement liée au fait que le code source soit libre, mais la gratuité dans le jeu vidéo commence à monter en puissance aujourd'hui, avec notamment tout ce qui est de l'ordre des jeux vidéo persuasifs, qui sont donc en vue de diffuser un message qui peut être pour certains des messages très nobles sur le développement durable, sur la guerre. Donc on a des exemples sur l'humanitaire avec Food Force, sur la guerre en Palestine avec Peacemaker. Donc là, l'usage est gratuit.
On a l'inverse avec les trucs de l'armée américaine. Là.
On a l'inverse avec American Armies, téléchargé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est vrai que la gratuité du jeu commence à augmenter, mais alimentée par des logiques de publicitaires, promotionnels, qui sont un peu inquiétantes et sur lesquelles il faut travailler, parce qu'à la fois ça étend un marché de l'industrie qui était un peu limité, saturation des publics, et on peut attendre que nous arrive plein de DVD sur console ou sur internet pour jouer à ces jeux. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, sur la force de travail des joueurs, c'est vrai que ce qui est hallucinant, c'est que les logiques contributives, participatives, qui reposent sur l'intelligence de l'utilisateur, nourrissent énormément les services marketing. C'est une forme de délégation de production à l'utilisateur final, qui arrange beaucoup l'industrie et vis-à-vis de laquelle on a très peu de contrepartie en réalité. Puisque la contrepartie, elle est d'ordre symbolique pour l'industrie, qui se dit, regardez, vous pouvez vous vanter avoir fait un nouveau bâtiment, un nouvel objet, c'est la notoriété, c'est le quart d'heure de gloire dont on te récompense, alors qu'on pourrait aussi reconnaître le travail, l'apport et même éventuellement la critique. Et alors du côté de la critique, ce qui est intéressant, c'est aussi le mouvement de détournement de tout ce qui est de l'ordre du... un peu l'appropriation soit artistique, soit critique, qui va essayer de non pas d'apporter des éléments dans un jeu en respectant sa philosophie de jeu, mais de faire des choses qui vont contredire les présupposés du jeu. Donc c'est un peu compliqué, mais dans Sims, dont la base idéologique quand même c'est la consommation, c'est un certain American Way of Life. Ils sont très forts, parce que finalement on a beau ajouter des contenus qui sont décalés par rapport à cette, ça rentre quand même dedans par le jeu du second degré. Et là, moi, j'ai écrit un papier récemment sur les jeux persuasifs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le second degré de la publicité qu'on connaît, où c'est l'ironie de vole les biscuits à ton voisin, et puis mais c'est du second degré, ne le prenez pas au sérieux, ou alors comment devenir la femme la plus sexy de l'été, mais c'est du second degré, s'ajoute avec le second degré du jeu vidéo, qui fait que quand on joue un jeu, on est quand même dans un espace de second degré. Et moi, je pense que la force persuasive des jeux gratuits non open source, complètement propriétaires, est assez inquiétante, mais ça nous écarte du débat, quoique le copyright et l'influence des esprits a une place sur ces ondes, je pense.
D'accord. On va écouter un second morceau de Sac à Boulons et on se retrouve après.
Gérard n'a qu'un ami, il s'appelle Ricard. Avant de rentrer chez lui, il passe le chercher au bar. Ils y prennent l'apéro en revivant Waterloo. Referait bien le monde en une ou deux secondes. Il parle seul à son verre jusqu'enroulé par terre. De toute façon, le patron s'en fout, ça le fait gagner les sous. Oh Gérard, tu vois bien qu'il est tard. Tu ferais mieux de rentrer, de lâcher ce comptoir. Gérard, Gérard, tu vois bien qu'il est tard. Tu ferais mieux de rentrer en te tenant au trottoir. Il se lève le matin, enfile sa peau de chagrin, va directement chez Simone pour boire son café jaune. 8h, il prend son service ainsi que son premier pastis et commence à être bien. À 11h du matin, les murs le tiennent pour sortir de chez Étienne. Et c'est comme ça toute la journée. Il va manger à Nisée. Oh Gérard, tu vois bien qu'il est tard. Tu ferais mieux de rentrer, de lâcher ce comptoir. Gérard, Gérard, tu vois bien qu'il est tard. Tu ferais mieux de rentrer en te tenant au trottoir.
Est enfin rentré, avachi sur son canapé, il se saoule de télé. Il se sert un whisky pour dormir mieux la nuit et il rêve du paradis. Xerco lui a promis les croix dures comme fer, mais il vit en enfer, emprisonné par l'alcool qui lui suce sur ses paroles.
Oh Gérard, il n'est pas encore trop tard. Fini de me siffler, peut-être que tu sauras chanter. Gérard, Gérard, surtout n'arrête pas de boire. Tu finiras poivre, la tête coincée dans le caniveau.
Mais que faut donc il faire pour soigner son ulcère, sa cirrhose et son cancer qui lui font des misères. Il voit pas de solution, alors il boit du houblon. Allez, quitte à crever, autant que soit bourré. Oh Gérard, tu vois bien qu'il est tard. Tu ferais mieux de rentrer, de lâcher ce comptoir. Gérard, Gérard, tu vois bien qu'il est tard. Tu ferais mieux de rentrer en te tenant au trottoir. Oh Gérard, ne vois-tu pas qu'il est tard? Mais ne veux-tu pas rentrer pour voir le soleil se coucher?
Donc Symbiose de retour, aujourd'hui on parle du jeu, et du jeu libre en particulier. Donc on a vu plusieurs points, d'une part un peu cette césure qu'il y a entre, comment dire, entre la technique, le logiciel, le soft et le tous les contenus disons plus artistiques, hein, musique, graphisme et ce genre de choses, en voyant qu'on peut libérer plus facilement du logiciel que du contenu. On a parlé de gratuité, on a évoqué ces choses-là. Il y a plusieurs choses qu'on a évoquées assez rapidement et qui me semblent très intéressantes. D'une part, c'est cette tendance dans le jeu libre à faire des clones d'eux, donc qui ouvre une première question qui est, est-ce qu'on n'a pas cette fâcheuse tendance à vouloir refaire exactement pareil avec moins de moyens? Et donc finalement avoir des jeux qui n'apportent pas grand chose outre le fait qu'ils sont libres et donc bien souvent gratuits, mais finalement d'avoir pareil mais moins bien, et de faire une pâle copie de l'original.
Oui, mais enfin d'une certaine manière, si on prend un parallèle avec par exemple le cinéma, c'est que quand quelqu'un passionné de cinéma prend une petite caméra pas terrible et fait un film à la façon d'eux, dès lors que c'est l'expression d'une créativité et aussi de l'accès à un rêve incroyable qui consiste à faire un jeu vidéo. Donc là, on peut pas le faire seul, c'est en équipe, c'est des aventures humaines. On peut se dire aussi que le gain, il est pas nécessairement dans la qualité, il est dans le processus. Ou alors, par exemple, il y a un groupe de passionnés de jeux de simulation de course, de voiture, qui a sorti Motorsport. Bon, et leur but simplement, c'est de faire un truc le plus réaliste possible et gratuit, donc avec une logique comme ça de création. Moi, il me semble qu'on n'est pas nécessairement obligé de juger avec les critères marketing qui finalement nous ont été complètement mis dans la tête. Et bon, il y a des raisons à ça. On aime la nouveauté, on aime le progrès technique. Peut-être que les jeux libres, c'est à la fois des clones, mais au moins ça a été fait et puis c'est gratuit et puis de l'innovation. Mais ça, c'est un autre sujet.
Olivier, moi, je dirais. Il n'y a pas que le libre qui fait des clones. L'industrie fait des clones à répétition. Et c'est un gros problème, d'ailleurs. On a beaucoup trop de clones dans l'industrie commerciale telle quelle.
Je jouais récemment à, je ne sais même plus le nom du jeu, mais un FPS sur Xbox 360. Et voilà, il y a une petite fonction innovante qui permet de se cacher derrière un truc et de tirer par-dessus. Les graphismes sont hallucinants. Mais au final, c'est le même jeu avec le petit truc supplémentaire. Mais du coup, il y a quelque chose dont Xavier parlait tout à l'heure, là, qui était de s'adapter, de dire que tout le monde, qu'il y avait des goûts, qu'il y avait ce que le marketing des grosses sociétés pouvait identifier comme étant quelque chose... qui vendaient, etc., mais qu'on avait potentiellement plein de joueurs qui étaient qui pouvaient avoir des goûts différents, plus pointus, etc. Là-dessus, est-ce qu'on a dans le libre des exemples?
Il y a peut-être un truc avant ça, c'est est-ce que il est vraiment gênant d'avoir des clones, parce que dans un sens, c'est toujours un petit peu comme ça que le jeu a fonctionné, avec des variantes. Donc le fait qu'il y ait des genres qui s'affirment, maintenant on parle plus de Doom ou de Wolfenstein, on parle de FPS. Donc c'est des choses qui, avec le temps, avec les clones successifs et la petite fonctionnalité en plus qui s'ajoute, s'est affiné, est devenu quelque chose qui correspondait de plus en plus à une manière de jouer, une manière d'être. Maintenant, je pense que c'est relativement évident que un genre ne conviendra jamais à tout le monde. Donc, dans la manière d'affiner les choses, on peut regarder, par exemple, la tendance qu'il y a dans le MMO à s'approprier d'autres choses que simplement les univers graphiques 3D. Par exemple, il y a pas très longtemps, Rav Koster avec sa société RAE a annoncé l'arrivée de Metaplace. Metaplace, qu'est-ce que c'est? C'est basiquement une boîte à outils pour faire des univers virtuels, donc qu'on va peupler de ses règles, de ses graphismes, etc. Et justement, ici, on est en plein dans l'industrie propriétaire ouverte, parce que Rav Koster aime bien avoir cette image-là. Mais y compris dans ce domaine-là, on a très bien cerné le fait que une base commune technique ou de genre, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui permettaient de créer un lieu, un jeu, etc., pouvait être une formidable boîte à idées, un lieu où chacun pourra faire son petit univers à lui, ses petites règles, etc., et apporter juste sa petite touche, son petit truc en plus, qui en fera l'unicité et qui, mêlé aux autres, donnera un bouillon d'idées qu'on attend toujours dans le livre.
D'accord. Et d'ailleurs, Rhizome, précisément, parce que moi j'avais vu les annonces presse quand vous avez ouvert une partie de... Mais qu'est-ce que vous proposez de libre à vos utilisateurs
Alors, Rhizome n'est pas passé en libre, c'est-à-dire la seule chose qu'il y a de libre actuellement dans Rhizome, c'est le cœur, le noyau qui s'appelle Nel, qui correspond globalement aux années où Olivier était à Nebrax et où le code était publié. Ensuite, il est parti, ils ont abandonné ça. Donc, il y a juste une petite partie du code, peut-être 10-20% du code qui est libre. Et la deuxième chose qu'ils ont essayé de faire, mais très mal, et qui est en plus juste dans le sens de l'ouverture, pas de la liberté, c'est le ring. Donc, c'est une interface de création de scénarios, de petites aventures dans le jeu. mais qui est extrêmement limité, puisque en gros, on soulève un tout petit peu le capot. Ça permet de faire des choses quand même, mais on n'a pas toute la finesse et toute la liberté que peut avoir un vrai créateur de jeux vidéo.
Mais pour répondre à ta question, Étienne, je crois que l'objectif de Rhizome.org, c'est bien de libérer l'intégralité.
Ah oui, d'accord.
Par contre, pour Rhizome.org, et pas Rhizome pour le coup, c'est pas, même pas du tout par étape, c'est si on arrivait à obtenir...
Si on récupère Rhizome, on libère tout
voilà,
de suite.
Voilà, c'est ça. C'est code, données, etc. Et justement, pour revenir sur le débat de tout à l'heure sur la propriété des données, chaque... avatar, compte, etc. appartiendra non plus à une société, mais à chacun des utilisateurs.
D'accord.
Très bien. Donc on a cette tendance à, enfin en tout cas, c'est volonté de faire des clones. Donc David, tu nous dis que faire des clones c'est très bien, enfin c'est le déroulement normal et logique, okay. Voilà. Moi, il y a quelques jeux en libre que je trouve assez innovants. Enfin, j'ai parlé de Globulation, mais je sais pas si vous y avez joué, manifestement non. Donc, c'est un jeu de stratégie temps réel où on a des petits personnages. Donc, l'idée, c'est qu'on monte une base, on a des ressources, des petits personnages, des ouvrières, des guerrières et des exploratrices. Et donc, et on doit monter sa base, hein, selon le même principe. Non, je crois qu'il y a aussi un acronyme pour désigner ce type de jeu, je ne sais plus si c'est...
RTS.
RTS, oui.
Le terme stratégie.
Voilà, temps réel.
Stratégie en fait.
Et sauf que dans ce jeu-là, au lieu de commander les unités, les personnages les uns après les autres en disant « toi tu fais ça » ou en les cliquant ou en sélectionnant une quantité de personnages, on les laisse s'attribuer automatiquement à un certain nombre de tâches qui peuvent être entretenir un bâtiment ou aller attaquer tel endroit ou... ce genre de choses, et ils vont eux-mêmes chercher la nourriture, ce genre de trucs. Et du coup, on a une approche, enfin, je trouve, hein, ce jeu très intéressant. Il est pas très développé, il y a quelques cartes. Donc je sais pas si le projet évolue beaucoup encore aujourd'hui, mais je trouvais qu'on avait une idée très, très novatrice sur l'interface.
Je connais pas le jeu, mais il me semble que là, on est quand même en train d'arriver sur un autre débat. C'est-à-dire qu'on passe du débat jeu libre ou pas, comment on fait des jeux libres, au débat comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on innove dans le jeu vidéo. Et ça, c'est une problématique qui dépasse le jeu libre. C'est vrai aussi dans le jeu propriétaire.
Est-ce que le libre n'est pas justement, n'offrirait pas les moyens d'avoir plus de, comment dire, plus de liberté? J'ai une idée, enfin un exemple en tête. J'ai un ami qui j'ai pas fait personnellement, mais qui joue un MMORPG de Star Wars, qui au début, m'avait-il dit, était très orienté sur l'économie, sur le développement de réseaux comme ça économiques, où il trouvait ça très sympa parce que les joueurs étaient en relation les uns avec les autres, etc. Mais que bon, ça avait pas très bien marché commercialement, et que du coup, le jeu avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus standard, avec des quêtes, de la baston et des trucs comme ça.
Ça, pour revenir à ça, c'est ce qu'ils ont appelé le NGE, New Gaming Experience, quand ils sont passés à ça dans Star Wars Galaxies. La première version du jeu avait été conçue par Rav Koster, justement. Et puis, Sony a décidé que ça marchait pas assez bien. Ils ont fait le NGE, et ils viennent de s'excuser d'avoir fait le NGE. Là, il y a eu un message comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Le boss de SOE qui a dit on s'excuse d'avoir fait le NGE, on n'a pas assez écouté les joueurs, on va revenir vers quelque chose de comme l'expérience plus proche
là,
de l'expérience.
Là, on est encore dans autre chose, je pense. C'est encore un truc qui se rajoute, c'est qu'en plus de tout ce qu'on a dit, il y a le fait qu'à partir du moment où on fait exister un univers, on fait exister une communauté, un tissu social, des gens qui sont habitués à quelque chose. Et un peu comme dans un pays qui aurait besoin de réformes au hasard, c'est toujours très difficile d'arriver à satisfaire les différents groupes qui vont constituer cette communauté sur ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui vont considérer qu'il faut rien faire, qu'il faut laisser la même chose, d'autres qu'il faut changer des choses, et ça ira pas forcément dans le même sens. Donc un bouleversement fondamental du jour au lendemain qui est en plus justifié uniquement sur le fait on gagne pas assez d'argent, on veut ramener d'autres gens, c'est évident que ça a beaucoup de mal à passer. Et je pense que ici, ça a été la première erreur, la plus grosse erreur sur la NGE. S'ils avaient sorti le jeu tel qu'il était avec la NGE, peut-être que les choses se seraient passées complètement différemment. Mais le fait d'imposer ces changements à un groupe social qui est déjà constitué, c'est très difficile.
Et puis moi, il y a un enjeu que je voudrais rappeler sur les univers persistants qu'on nomme MMO, Massive Multiplayer Online depuis le début. c'est que ce sont donc, comme on l'a dit, des univers privés, où le nombre d'interactions humaines est très très important, la créativité, bon, tout ça on l'a dit. Donc, bon, sans vouloir faire un appel comme ça, un manifeste, on peut quand même se demander s'il ne serait pas urgent, effectivement, que des univers parallèles aux nôtres, des univers numériques, existent sous une forme de sphère publique, hein, de bien commun collectif, qui ne sont pas régis par des lois uniquement industrielles ou commerciales, qui ont leur mérite par ailleurs, parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, enfin quasiment l'intégralité des univers persistants où des êtres humains font plein de choses en prenant beaucoup de temps pour le faire, et ben appartiennent à des industries, et il y a de l'espace public qui se crée à l'intérieur de ces univers de facto, puisque ce sont des gens, on se connaît pas, on fait une guilde, on fait des projets communs et autres. Et cet espace public est totalement prisonnier des logiques privées, commerciales. Donc, c'est vrai que sur au moins les jeux en ligne, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de catégories de jeux vidéo qu'il faut... On parlait des clones tout à l'heure plutôt du côté des répliques de jeux solo, multijoueurs, assez de parties courtes, quoi. Mais sur les jeux en ligne dont parle en particulier Olivier Jade et Xavier, c'est extrêmement important que naissent des univers parfaitement en adéquation avec le bien commun, la citoyenneté numérique, la citoyenneté numérique.
On a un peu la même distinction qu'on a entre l'Internet au sens large, le web, et... quand vous êtes prisonnier à l'intérieur d'une expérience particulière d'un site web donné. Par exemple, quand vous êtes chez Flickr ou chez YouTube. Donc, on a l'équivalent de Flickr et YouTube qui sont les MMO tels qu'on les connaît, World of Warcraft, Anarchy Online, etc. Mais on n'a pas l'espace public pour tout le monde, l'équivalent du web où n'importe qui peut ouvrir sa page, n'importe qui peut aller sur la page de n'importe qui, échanger des données facilement. Ça n'existe pas encore. Donc, je pense que la logique veut que progressivement, on voit une évolution du web, des technologies du web vers des choses qui ressemblent plus à ça. Quand, comment
bien malin qui peut dire. Moi, j'avais une question, en fait, c'était la question de la finalité. C'est qu'à l'heure actuelle, l'industrie du jeu propriétaire, leur seule finalité, c'est faire du business. Donc c'est pour ça qu'ils nous font les éternels ressuscés de FPS, où on sait que les joueurs, de toute façon, ils demandent toujours plus de réalisme. Donc eux, leur but, c'est de vendre. À la limite, si les joueurs se contentaient d'images en noir et blanc, ça arrangerait tout le monde, ils auraient des coûts de production moindres, ils feraient plus d'argent. Par contre, la question de la finalité dans le monde de l'open source, j'aimerais bien qu'on puisse la définir, parce que quand il y a un groupe qui se monte, son objectif c'est quoi? C'est de se faire son jeu à lui, et comme ils sont, le groupe est de culture open source, est-ce qu'ils disent on va en faire profiter tout le monde, ou est-ce que sa finalité c'est de dire on va essayer de faire un jeu qui va permettre aux gens d'échapper à l'industrie propriétaire? Quelle est cette finalité?
Moi, je voudrais quand même pas laisser passer, parce que là, tu caricatures un petit peu quand même. C'est-à-dire que dans l'industrie, certes, il y a les industriels, les éditeurs qui sont très fortement motivés par l'argent, mais il y a aussi des créateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il faut quand même pas l'oublier. Il y a des gens dans l'industrie du jeu vidéo qui font des jeux vidéo parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont vraiment envie de faire des jeux vidéo, et il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent vraiment à créer les jeux qu'ils ont envie de créer, et c'est un peu ce qui pousse l'industrie en avant.
Hein. Alors pourquoi il n'y a pas la même chose dans le monde du libre, justement?
Ah, mais je pense qu'il y a, sauf qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes... Et on a de l'innovation, de la même manière, dans le monde du libre et dans le monde du jeu propriétaire. La différence, c'est que faire un jeu vidéo, c'est très difficile aujourd'hui. Ça prend, ça dure plusieurs années, 2 ans, 3 ans, il faut des équipes importantes si on veut un niveau de qualité graphique élevé. Donc, il faut les financer, ces gens-là, tout simplement. Donc, dans le libre, on a aussi de l'innovation, elle se manifeste, elle produit des résultats qui sont qualitativement pas au niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas aujourd'hui le temps ni le loisir sur la durée d'arriver à créer des contenus équivalents. Maintenant, d'un point de vue gameplay, je suis pas convaincu qu'on trouve pas des jeux libres aussi intéressants que des jeux propriétaires.
Mais c'est pas une question d'intérêt, c'est vraiment une question de finalité. C'est quand quelqu'un se dit tiens, je vais créer un jeu libre, quel est son objectif?
Alors, faire un bon jeu. Réponse là-dessus. Bon, alors apparemment, d'après des interviews là que j'ai lues dans ce dossier, le profil des personnes qui interviennent sur le projet est très varié. Donc c'est à propos de plein de chiffres, mais vous me dites qu'il n'est pas libre, mais apparemment il est contributif. Cela va de jeunes et talentueux programmeurs à des professionnels de 35 ans qui évoluent dans le milieu du jeu. Plusieurs raisons les motivent: le chômage, la recherche d'un passe-temps, l'envie d'ajouter des références sur son CV et la beauté de l'idée. Par ailleurs, est ajoutée l'idée que Alors là, c'est Frédéric Rodrigo, qui est un Français, qui a participé à FreeCiv, à Open City. FreeCiv, c'est la reprise de Civilization, Open City, la reprise de SimCity. Lui affirme que, bon, c'est principalement un mordu de programmation, donc il le fait par égoïsme pour satisfaire son addiction, tout en se disant ça profitera aux autres, et en n'ayant pas de contraintes non plus de type classique, puisque ça sortira quand ce sera prêt. Hein,
je crois qu'on retrouve tout le spectre des motivations des gens qui contribuent au libre.
Ouais, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'il dit améliorer l'expérience des joueurs, non. Améliorer l'expérience des joueurs programmeurs, oui. Donc il y a une catégorie
ça,
comme
ça bon.
Non, mais c'est vrai que là, ce que David disait tout à l'heure est juste, c'est-à-dire que dans le libre, effectivement, il y a toute cette part de plaisir qu'on peut trouver à développer un projet sur bon, tout ce que Étienne a pu décrire. La grande force du modèle, c'est l'accumulation du travail. Et bon, en l'occurrence, on est sur des choses très fonctionnelles et sur du code. Et la grande force, c'est là, c'est dans le partage, la modification et le fait que le travail s'accumule. Et quand tout à l'heure David disait on n'avait pas d'interopérabilité, mais bon, Olivier, tu disais que c'était quelque chose à long terme. Voilà, je pense. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ta question était un peu dans ce sens-là, quoi.
Pour moi, c'est celle-là, c'est que, enfin, pour moi, l'objectif premier d'un jeu en logiciel libre, c'est que je pourrais le faire tourner sur n'importe quelle plateforme.
Ouais, très important.
À l'heure actuelle, pour moi, c'est le seul point qui est important quand je vois qu'on est obligé d'acheter, si on veut couvrir l'ensemble des jeux qui sortent sur le marché, on est obligé d'avoir finalement un exemplaire de chaque console. De mon point de vue, c'est anormal, et c'est pour ça que je maintiens le fait que la motivation première, c'est le business. Après, que chaque développeur, même au sein d'une entité comme Sony ou autre, soit motivé par l'amour de l'art, ça, je veux bien. Mais les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est évidemment un retour sur investissement. Contrainte que l'on n'a pas dans le logiciel libre, justement.
Alors, ça dépend, parce que...
Je suis pas sûr d'avoir suivi l'argument, excuse-moi, tu peux reprendre.
À l'heure actuelle, quand on voit qu'il y a certaines licences pour avoir tel jeu de foot sur telle console, ouais. Que cette licence est réservée uniquement, on va dire, à Sony avec sa PS3 ou telle autre console, on voit bien que derrière, c'est une histoire de gros sous. C'est qu'il y a quelqu'un qui a payé une exclusivité.
Ouais, mais ça, c'est encore une autre problématique. La question du support de distribution, c'est encore une autre problématique.
Ben, c'est une alternative, justement, avec les logiciels libres que l'on a. C'est qu'à l'heure actuelle, quand on fait un jeu libre, enfin, j'espère en tout cas que c'est une des motivations premières, aussi de se dire, je vais pas... Parce que de mon point de vue, en tout cas, un jeu qui est en logiciel libre mais qui tourne que sur un système d'exploitation propriétaire, enfin, je veux dire, moi, ça va pas m'intéresser et j'en ai strictement rien à faire. Ouais.
Mais là, je crois que tu réagis pas du tout en joueur. Ça, c'est pas une réflexion de joueur. Le joueur, il se dit pas, ah, moi, je veux que le jeu que je vais acheter, il puisse tourner de mon iPhone jusqu'à un mainframe computer.
Moi, ce que je dis, justement, c'est que, en tant que joueur, parce que je joue, je n'ai pas envie, d'une part, d'avoir installé un système propriétaire sur mon ordinateur, et j'ai pas envie d'avoir à acheter 4 consoles qui coûtent chacune 300 euros. Pour pouvoir jouer à tous les jeux qui peuvent m'intéresser.
Mais ça revient au même. Si t'avais qu'un iPhone ou si t'avais qu'un mainframe, tu dirais, moi je veux que le jeu il puisse tourner sur mon mainframe.
Oui, mais si j'ai un logiciel libre, justement, là on a les sources, donc on pourra, je l'espère en tout cas, et c'est déjà le cas pour la plupart des logiciels, les adapter et les porter.
Ouais. Mais ce que je te dis, c'est que ça, pour moi, c'est pas une réflexion de joueur normal. Enfin, le joueur, tout ce qu'il veut, c'est jouer au jeu. Et un jeu disponible sur sa plateforme, s'il a un PC, ou s'il a un Mac, ou s'il a une console X ou lambda. Il se pose pas la question de la portabilité du jeu, ça je pense que
c'est... Ouais, mais enfin, pour autant, si on parle des motivations de la communauté du libre qui défend des plateformes Linux en termes de système d'exploitation, c'est un enjeu très important que ces systèmes d'exploitation libres disposent de jeux qui sont une motivation aussi d'achat, d'acquisition, et on sait que le monde du libre, du point de vue système d'exploitation informatique, a souffert de l'absence d'usage un peu comme ça, divertissant. Donc c'est une vraie, à mon avis, c'est une vraie motivation de la communauté que de produire suffisamment de jeux vidéo pour que au moins la personne qui décide de se priver du système d'exploitation Windows ait matière à jouer, peut-être pas sur les dernières versions, mais au moins suffisamment pour s'amuser de quelques milliers d'heures. Ça, c'est important.
J'irai même plus loin. À nouveau, je vais reprendre l'exemple de Rhizome, mais si la FSF a donné, fait une promesse de don de 60 000 $, ce qui est quand même pas rien.
C'est quoi la FSF?
La FSF,
Free Software Foundation.
Pardon. Voilà, c'est l'organisation qui a été fondée par Stallman pour protéger tout ce qui est, c'est les licences libres.
C'est la fondation du logiciel libre.
Merci.
S'ils ont fait cette promesse de don de 60 000 $, c'est pas pour rien, et c'est précisément pour ce type de raison-là, c'est que ça fait apparaître tous les problèmes qui vont se poser sur les multiplateformes, c'est-à-dire par exemple la disponibilité de drivers qui sont pas buggés avec toutes les fonctionnalités pour toutes les cartes, etc. sous Linux. Ça, c'était une des raisons principales pour lesquelles ils ont fait ça.
Non, mais qu'il y a un problème systémique de manque de jeux sur les plateformes libres, ça c'est une certitude. Mmh. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui, même avec la meilleure volonté du monde, et je suis bien placé pour en parler, de créer des jeux dans un environnement libre. Parce qu'il manque des drivers, parce qu'il manque des tas de librairies, parce que c'est pas unifié, parce que c'est pas... Rien n'est fait pour que ce soit facile de développer dans un environnement libre. Au contraire, dans les environnements propriétaires, où Microsoft a bien pris soin de fournir des API consistantes, documentées...
Enfin, OpenGL, ça existe depuis
un
moment.
Oui, mais il n'y a pas qu'OpenGL. Tu vois, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'OpenGL, il y a tout ce qui va avec, il y a le son, et je peux te dire, pour m'être confronté au problème suffisamment longtemps et de façon suffisamment assidue, que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de développer des jeux dans un environnement libre que ça ne l'est sur un environnement propriétaire. Et ne serait-ce que parce que, tout simplement, la plupart des programmeurs de l'industrie sont élevés dans cet environnement propriétaire, et que donc, quand on veut les faire switcher à des outils libres ou quand on veut les faire switcher à des environnements libres, eh ben, il y a une réticence extrêmement forte et c'est très très difficile d'arriver à convaincre des programmeurs de programmer dans des programmeurs de jeux vidéo de l'industrie classique de programmer dans un environnement libre. Donc il y a un manque, ça c'est une certitude. Maintenant, je ne pense pas que du point de vue du joueur, ça soit la première motivation. Je ne crois pas que les gens se disent principalement ah, il faut que mon jeu il tourne. Enfin, il faut que les jeux.
Il faudrait faire un sondage auprès de ceux qui ont justement une console ou deux et qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus de 500€ dans une console. Est-ce qu'ils ne sont pas frustrés de ne pas pouvoir jouer à tel et tel jeu de foot, par exemple? Parce que ça, c'est vraiment l'exemple typique. Quoi.
D'accord, mais ça, je dirais que c'est le problème du copyright. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de logiciel libre. Si moi, j'ai le copyright, j'ai le copyright de tel jeu ou machin, je peux le céder à qui j'en...
Encore une fois, si on fait encore un parallèle sur la musique ou ce genre de choses, avec... les DRM, on a ce genre de problématiques qui sont apparues. C'est qu'on a eu l'habitude d'avoir des supports qui permettaient, qui étaient à peu près normalisés et qu'on pouvait lire partout. Et par les DRM, ils ont fait marche arrière, mais on s'était retrouvé dans une situation où on allait avoir des fichiers MP3 compatibles Sony et des fichiers MP3 compatibles Microsoft. Mmh. Et en fonction du catalogue, on était obligé d'avoir deux MP3. Donc, ça me semble, aujourd'hui, on part d'une situation différente sur le jeu. Dans le domaine du jeu, parce qu'on a déjà cette idée de départ qu'on a certains jeux qui vont tourner sur certaines plateformes mais pas d'autres. Mais enfin, moi ça me semble pas totalement.
Je pense que c'est pas lié à la technologie, c'est-à-dire que c'est ça le point que j'essaye de mettre en lumière. Mmh. Je dois le faire très mal, mais tout ce que je dis c'est que c'est purement une affaire de copyright et de réseau de distribution, c'est-à-dire que technologie ou pas, de la même manière que on trouve sur iTunes que le catalogue de tel ou tel major. Sur les jeux vidéo, en oubliant le côté logiciel libre ou logiciel, on peut ne trouver que tel ou tel jeu sur tel ou tel canal de
distribution. De toute façon, on a compris que l'interopérabilité est quand même une problématique qui est assez
importante. Pour moi, c'est ça. C'est que de toute façon, de manière absolue, un jeu ou un logiciel, mais là, on parle exclusivement des jeux, qui ne peut pas fonctionner sur une autre plateforme ou qui impose d'avoir telle ou telle plateforme pour fonctionner, n'est pas libre, de mon point de vue. C'est que c'est de la vente, entre guillemets, c'est une sorte de don lié ou de vente liée selon, mais si je suis obligé d'aller acheter une licence Vista et d'avoir un ordinateur à 3000€ pour faire fonctionner un tel ou tel jeu, ou je suis obligé d'acheter telle console, quel que soit l'éditeur en face, il a beau dire oui, mais regardez, je vous donne le source, pour moi ce n'est pas libre parce qu'il m'impose, il me lie à une machine.
Mais là, on est en train de parler donc de la distinction, là on vient un peu au cœur du sujet, qui est la distinction entre un jeu libre et un logiciel libre. Et moi, comme je disais en ouverture, je sais comment faire du logiciel libre, je sais comment faire des jeux qui ont un logiciel libre, je ne sais pas faire des jeux libres aujourd'hui. Mmh.
Mais d'ailleurs, dans ton cas, toi, tu as monté une entreprise, donc tu es dans une situation, parce que tout à l'heure, on parlait de projets et de ne pas être contraint sur le moment de délivrer, etc. Toi, tu as des contraintes financières dans
ton activité. Et c'est bien pour ça que je dis que je ne sais pas faire des jeux libres. Je sais faire du logiciel libre et je considère qu'il y a une contrainte morale, il y a un devoir moral à faire du logiciel libre. Par contre, je ne ressens pas du tout ce besoin-là sur les data. Et aujourd'hui, je ne sais pas le faire. J'aimerais bien pouvoir faire des data libres. J'aimerais bien que tout ce qu'on produise puisse être libre à mes cibles. Mais parce que j'ai des contraintes financières, parce que je suis obligé de payer les artistes avec lesquels je travaille et les programmeurs et avec tous les gens avec qui je travaille, eh bien, je ne sais pas faire des jeux libres aujourd'hui.
Et de mon point de vue, ça signifie une chose, c'est que le danger que l'on a vis-à-vis de ces fameuses data, c'est le même que dans la presse actuelle, où on s'aperçoit qu'il y a deux grands groupes mondiaux à qui appartiennent l'ensemble des photographies. Vous voulez une photographie de telle et telle chose, bah, faut payer des royalties. Ce qui est assez intéressant à savoir, c'est qu'il y a une de ces deux entreprises qui appartient en fonds propres quasiment à Bill Gates. Donc il s'est reconverti assez tôt dans l'image. À l'heure actuelle, si on dit, voilà, j'ai un jeu, le code est ouvert, mais pas les data, effectivement, c'est pas du logiciel libre.
Mais pour moi, c'est du jeu libre. C'est pas du jeu libre, mais c'est du logiciel libre. Je suis désolé. Il y a quand même une définition stricte de ce que c'est que le logiciel libre. Et si on répond à ces quatre définitions, bon, c'est du logiciel libre. Là, tu rentres dans une extension de la définition de ce que c'est qu'un logiciel.
Il faut voir après le format de ces fameuses data. Et est-ce qu'elles sont réutilisables par n'importe qui?
Il n'y a pas que les données, d'ailleurs. Si on prend, par exemple, l'exemple de Linden Lab, eux, ils ont... ils ont publié leurs clients en libre. C'est du logiciel libre. On ne va pas faire tort à Olivier. Mais simplement parce qu'il manque l'autre brique, qui est le serveur, on se retrouve un peu comme les DRM. C'est-à-dire, si on l'utilise en dehors du cadre prévu par l'éditeur d'origine, juste, ça ne sert à rien. Donc, dans ces cas-là, il faut à nouveau, tout comme pour les données, la propriété des données, considérer aussi à qui on se lie en utilisant un jeu donné. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la possibilité de contrôler une parcelle d'univers réellement, c'est-à-dire qu'elle nous appartienne et qu'on en ait le contrôle technique, c'est-à-dire le serveur, ou pas? Et je pense que dans le cadre d'un jeu en ligne, ces deux éléments sont des éléments importants pour passer d'une des définitions simplement d'un logiciel libre à celui d'un jeu libre.
Oui, tout à fait. Enfin, dans le cas de Linden Lab, ce qu'il te donne, en fait, c'est un logiciel qui a besoin de... Enfin, il te donne une partie du logiciel nécessaire pour faire tourner un univers persistant. Et à toi de réimplémenter la partie serveur. C'est ce qui est en train d'être fait, d'ailleurs. Il y a des gens qui cherchent à réimplémenter...
Oui, sauf que quand on suit un petit peu les échanges, c'est pas du tout ce qu'ils veulent, eux. Et clairement, ils sont dans une optique actuellement, même si ça pourrait changer, ils ont annoncé qu'ils allaient publier le code du serveur, où il s'agit de jouer sur les serveurs de Linden Lab. S'il y a des gens qui jouent ailleurs, ça les fait chier.
L'enjeu finalement est là, non? C'est d'avoir un maximum de personnes sur son serveur, parce que c'est là qu'on fait l'argent.
Voilà. Ils ont, pour pouvoir publier le code source de leur serveur, à changer de modèle économique.
Mais on en revient un peu toujours à la même chose, qui est... je pense que les choses se débloqueraient. On ne peut pas exiger de la part de gens qui créent quelque chose qu'ils libèrent ce qu'ils font. Je pense que c'est une décision qui leur appartient et c'est à chacun de décider ce qu'ils veulent faire. Par contre, je pense qu'il y a besoin effectivement que les gens qui participent à ces projets, enfin qui les utilisateurs, sachent dans quoi ils vont, qu'ils soient conscients de ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas, des libertés qu'ils ont. Et puis dernièrement, je pense que si on arrivait effectivement à débloquer la problématique de comment est-ce qu'on finance et comment est-ce qu'on permet aux gens qui créent ces jeux de créer sans contrainte ou d'abaisser la hauteur de la contrainte financière, on verrait que ça se relaxerait considérablement, à mon avis, sur cette crispation.
C'est évident que c'est quand même plus intéressant de faire arriver les choses naturellement plutôt que d'essayer de forcer la main. Ça, là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. Mais je pense quand même qu'il faut différencier deux choses dans ce qu'on permet en règle locale sur un univers donné. C'est le fait d'avoir des règles de jeu particulières, c'est-à-dire si on veut créer un univers sadomasochiste, c'est évident que ça, on va pas vouloir les mêmes règles et on peut pas imposer les mêmes règles qu'au pays des bisounours, quoi. Maintenant, d'un autre côté, sur des choses plus fondamentales comme la propriété des données ou la disponibilité du code source, etc., on est quand même dans quelque chose de différent. C'est pas des règles de gameplay, c'est des règles basiques qui permettent à chacun d'assurer sa liberté.
Non, parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que tu rentres dans un contexte d'univers préexistant. Tu arrives et le créateur de l'univers a défini son univers d'une certaine manière. Et toi, tu vas proposer un univers où tu vas une variation sur cet univers. Et c'est lui qui fixe, puisque c'est lui qui a initié l'univers de départ, c'est lui qui fixe les règles de contribution à l'univers.
Ah, bien entendu, normal, mais tout comme dans les projets libres, il y a des distributions officielles. Que la personne qui a créé un univers donné décide ou non de l'inclusion de nouvelles contributions dans son univers, donc c'est dans son instance en fait, ça n'a pas de souci. Tant que moi, de mon côté, je peux créer mon univers à moi, basé sur cet univers-là.
Pourquoi basé sur cet univers-là ? Tu es libre, tu es toujours libre de créer. Tu prends 3ds Max, tu prends Blender, et puis tu crées ton univers dans ton coin. Ça, tu peux toujours le faire.
Oui, mais c'est un petit peu facile de dire ça.
Mais tu viens et tu réclames. Et c'est là où je suis vraiment pas d'accord, Xavier. Parce que tu viens et tu réclames, tu exiges que quelqu'un qui a créé quelque chose te le donne. Et ça, moi, je peux pas être d'accord avec ça, quoi. S'il veut bien te le donner, très bien. S'il veut pas te le donner, non.
Sauf qu'il y a quand même quelque chose de fondamental. C'est qu'à partir du moment où tu as un univers qui est créé, il n'appartient plus complètement à l'éditeur.
Je suis pas d'accord. À
partir du moment où toi, tu vis dedans, c'est une partie de ta vie.
Mais c'est pour ça que tu dis que les règles d'entrée doivent être claires.
Tu utilises comme argument que... on a le choix. Je suis désolé, mais quand on est joueur aujourd'hui, face à vous, on n'a pas le choix.
Je suis désolé, je peux vraiment pas être d'accord avec vous.
Ouais.
Je pense que j'ai entendu vos arguments tous les deux. Non, mais je comprends tout à fait.
Je pense qu'on a le choix d'aller sur World of Warcraft, ça me paraît clair.
Oui. Enfin, une chose on va faire rapide, parce qu'on a bientôt fini. Une chose on n'a pas beaucoup parlé d'échecs, mais dans le même MMORPG, il y a cette idée que finalement c'est la masse des joueurs vivants, enfin derrière leur PC, qui fait l'intérêt, du jeu. C'est-à-dire qu'on va mettre en interaction des vrais joueurs pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc là, on a beaucoup parlé de l'environnement et ça permet de reboucler quand même un petit coup sur les échecs. Parce que est-ce que la plus-value du jeu n'est pas les joueurs qu'on va mettre ensemble? Et sur les échecs, c'est ça finalement. Le jeu d'échecs sans un autre joueur n'a absolument aucun intérêt. Et on voit finalement qu'il y a, cette.
Tout à fait. Le jeu qui est quand même un vieux jeu. Enfin, c'est vrai que c'est une situation particulière dans la mesure où c'est un sport. Il faut savoir que ça a été reconnu par le CIO en tant que sport en 99. Donc un jour, on aura peut-être aux Jeux Olympiques des parties d'échecs. C'est aussi considéré comme un art. Il y a beaucoup de joueurs d'échecs. Il y avait David Bronstein dans les années 50 qui disait que le futur des échecs, ce serait des gens qui joueraient juste pour la beauté du jeu et non pas pour le score. Et c'est aussi donc ce jeu. Mais effectivement, ce qui fait l'interactivité et tout l'intérêt du jeu, c'est de se retrouver tous ensemble dans un tournoi où vous tutoyez les gens aussitôt alors vous les connaissez pas. C'est l'identité du jeu d'échecs et du joueur d'échecs. C'est cette interaction-là qui fait vraiment tout l'intérêt, tout à fait.
D'accord. Donc on va, ouais.
Mot de conclusion.
Oui.
Moi, je voulais mentionner que les amateurs qui contribuent à des... Enfin, les programmeurs passionnés, lorsqu'ils seront en mesure d'être intégrés par l'industrie, ils iront joyeusement, parce que c'est le but de beaucoup de gens. Par contre, je suis pas certain que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens qui sont dans l'industrie soient capables de s'adapter. Et on peut s'inquiéter du fait que le monde des logiciels libres soit aussi un formidable réservoir de matières grises et de compétences qui s'y développe et qui est destiné à être absorbé sans pouvoir faire qu'il y ait un circuit retour du monde propriétaire privé vers le monde libre. Et pour finir, je mentionne que tout ce qu'on met sur Dailymotion et YouTube, si on lit les licences utilisateurs, appartient à YouTube et Dailymotion, j'ai appris hier. Et donc la logique, ce serait une version d'un slogan qu'on a connu qui est « Vous travaillez plus, nous gagnons plus ».
Bon, je pense que ce que tu disais comme le libre comme réservoir de main-d'œuvre a peut-être fait réagir, hein, Xavier.
Ah bah, là, sur l'exemple que tu prends sur Dailymotion, on est pour moi exactement dans le cas d'un univers virtuel, privatif, incontournable, où justement il y a appropriation des données. Je fais réagir Olivier, mais on va pas solutionner ce troll aujourd'hui.
Mais je peux pas être d'accord quand on me dit que Dailymotion et YouTube c'est incontournable. Moi, je poste pas mes vidéos sur YouTube ni Dailymotion. Point. Par contre, je mets mes photos sur Flickr parce que sur Flickr, je peux contrôler si à qui je donne mes data et ça reste mes data. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu
Voilà, ok.
D'accord. Juste pour, oui. Si, pour revenir juste sur ce que disait David, oui, je crois que le jeu, c'est effectivement quelque chose qui est le jeu en général et pas que les jeux d'échecs. Quand on parle de l'abstraction du jeu, c'est quelque chose qui est à la frontière de l'art et du sport dans beaucoup de cas et que ça devient un objet qui est de plus en plus difficile à définir parce que ça rejoint la vie aussi, que la vie est un jeu.
D'accord, merci. David, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Non ?
Oui, tout à fait, dans la mesure où tu as parlé d'onirique à un moment donné. Donc, juste pour dire qu'il y aura un résumé en fait, de l'émission qui sera sous forme textuelle avec un lien vers le point .og, format ouvert et libre, sur onirique.net, O-N-I-R-I-K.net.
Voilà. Bon bah merci, c'est animé. merci d'être venu et on se retrouve dans un mois. Et donc en plein, j'en ai parlé en début d'émission, donc d'objectifs jeux, je vous invite tous à y aller. Donc une convention de jeux, pour le coup de jeux conventionnels, il y aura des échecs notamment et du jeu de go et des jeux de rôle, des genres de choses. Et donc voilà pour des choses parfaitement, la vie dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Bah, merci, merci à Wade pour la technique.
Merci.
Et bien dans un mois.
Miss Peabody naquit un jour où il faisait nuit. Par un manque de chance, elle tomba du lit. Elle roula par terre, son corps circulaire ne put se ramasser. Qu'en roulant en arrière, oh, Miss Peabody roule sa bosse, en attendant le prince charmant. Elle se cogne, se cabosse, qui voudra d'elle maintenant? Ses relations humaines n'étaient pas très faciles. Avec un corps de graine, tous vous traitent d'imbécile. Seuls quelques gens gourmands s'intéressaient à elle, ce n'est qu'en la mordant qu'il a trouvé si belle. Oh, Miss Peabody roule sa bosse, en attendant le prince charmant. Elle se cogne, elle se cabosse, qui voudra d'elle maintenant? Qui voudra d'elle maintenant? Un jour n'en pouvant plus, elle se mit à la diète. Fitness, j'ai mes muscles, firent d'elle une blette. Elle prit son corps en main, sa tête fit le reste, envisagea demain. En lâchant tout son lest, oh, Miss Peabody roule sa bosse, en attendant le prince charmant. Elle se cogne, elle se cabosse, qui voudra d'elle maintenant? Qui voudra d'elle maintenant? Puis elle s'était prise de Monsieur Petitbois, et ce fut sans surprise que Monsieur la goûta par une nuit soudaine. Petitbois l'enfanta de quatre jolies graines. Petitbois, oh, Miss Peabody roule en carrosse, maintenant qu'elle a son prince charmant. Elle aime son homme, elle aime ses gosses, elle est heureuse maintenant. Elle est heureuse maintenant. Elle est heureuse maintenant. Sera heureuse pour longtemps.